Les rendez-vous de l'histoire, une émission qui porte un regard éclairé sur des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité.
Les rendez-vous de l'histoire. Historien et philosophe marocain de renom, Abdeslam Chedadi est l'un des grands de pointure d'Ibn Khaldoun. Professeur Chedadi a donné des cours dans les universités les plus prestigieuses du monde. De l'université Mohammed V, en passant par Harvard, Yale et Princeton, jusqu'à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant de sujets aussi divers que la civilisation arabe, les questions de la culture et de l'éducation dans le monde arabe moderne et au Maroc. Monsieur Chedadi nous invite à travers une série d'épisodes à découvrir la vie et l'œuvre d'Ibn Khaldoun, armé d'une solide connaissance du personnage en question, et nous guide dans les dédales de l'histoire et nous éclaire sur notre patrimoine.
Bonjour, chers auditeurs. Nous voilà arrivés à la fin de notre parcours avec cette 10e séance que nous allons consacrer à la réception de l'œuvre d'Ibn Khaldoun en son temps, donc à son époque, et également à l'époque moderne. La dernière séance a été consacrée à l'histoire, après que nous ayons parcouru l'autre côté de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, qui est donc la science de la société et de la civilisation. Et nous avons en particulier parlé de cette thèse infondée qui dit que Ibn Khaldoun ne respecte pas dans la partie historique de son œuvre les principes et méthodes énoncés par lui-même dans la Muqaddima. Et puis nous avons également parlé un peu de l'importance de l'histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb et un peu de son contenu. Voilà un petit peu donc ce que nous avons fait la dernière fois. Donc cette fois-ci, nous allons parler du dernier aspect que je voulais traiter avec vous. Et vous devez sans doute savoir qu'il y en a 1000 autres que je n'ai pas traités. C'est dommage, mais bon, la vie est comme ça. Il faut choisir des choses. Et puis, avec le temps, on peut compléter, on peut aller soi-même chercher dans tel ou tel ouvrage, telle ou telle bibliothèque, en allant fréquenter tel ou tel maître, etc. Donc alors, pour ce qui est de la réception, on va d'abord examiner la situation dans le monde musulman au moment où Ibn Khaldoun a terminé l'écriture de sa première version de la Muqaddima et du reste de l'histoire, du reste du livre des exemples, Kitab al-Ibrar. Nous pouvons dire d'abord que, alors qu'Ibn Khaldoun manifeste un esprit novateur dans sa conception de l'histoire, il observe une grande modération sur les plans politiques et religieux. Il reste fidèle à l'esprit de son époque, qu'on peut caractériser comme une époque légaliste et une époque soucieuse d'orthodoxie et d'autopraxie, ou conduite moralement et religieusement droite. Bon, là-dessus, il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a des petits livres, des petits textes qui ont été écrits à l'époque, et qui montre à quel point les Marocains, et d'une manière générale donc le Maghreb, étaient attachés à la lettre de la loi. Et donc ils étaient vraiment extrêmement légalistes. Et c'était une manière de se défendre, une manière de se sauvegarder, parce qu'en temps de guerre, en temps de révolte, en temps de désordre, la seule façon de maintenir quelque chose qui permet de vivre, c'est justement le respect de la loi. Donc Ibn Khaldoun lui-même a respecté cet esprit, l'esprit de cette époque. Il ne condamne jamais les régimes politiques de son temps. Il les considère comme une conséquence normale et inéluctable de l'ordre social existant. Sur la plupart des problèmes religieux ou scientifiques soulevés à son époque, il garde une attitude rationnelle, il réfléchit de manière rationnelle, mais en même temps extrêmement modérée. Qu'il s'agisse des sciences occultes qu'il met en cause dans leurs aspects irrationnels ou nocifs du point de vue social, mais qu'il ne rejette pas totalement. On sait en particulier qu'il était un adepte d'un jeu de société de l'époque qui s'appelle la Zayarja. Et c'est quelque chose de complètement, disons, presque de l'ordre de la magie. C'est un exercice d'une complexité extrême, mais qu'il a compris et qu'il a reproduit dans sa Muqaddima. Comme exemple, de rapport avec disons, des choses mystérieuses et incompréhensibles. Et il a cité toutes sortes d'exemples de magie, de sorcellerie, etc. Donc, c'était un observateur de tous les aspects de la société. Mais sur ces choses-là, il comprenait son temps. Il y avait des choses qu'il admettait et des choses qu'il refutait en se basant sur un raisonnement rationnel et sur les connaissances positives qu'on avait à l'époque. Il critique en particulier la philosophie, sans la rejeter, c'est ce que nous avons déjà vu. Il critique la métaphysique, qui est contraire à l'esprit orthodoxe de l'islam. Mais il critique aussi le soufisme dans ses aspects extrémistes. Donc, on peut dire, d'une manière générale, que le contenu politique, religieux et même philosophique de la Muqaddima est conforme à l'esprit du temps et n'a pas suscité de controverse, ce qui donc paraît tout à fait normal. Parce qu'on serait attendu, vu ce que l'on raconte sur Ibn Khaldoun, qu'à son époque, il devait apparaître comme une espèce de révolutionnaire. Mais pas du tout. C'était quelqu'un qui vivait la vie de ses contemporains, qui partageait leurs opinions d'une manière générale, et qui simplement essayait de les comprendre et de leur donner une base rationnelle. En revanche, il y a quelque chose qui nous paraît aujourd'hui anormal, et même choquant. C'est le fait que ce qu'il présente lui-même comme étant sa science nouvelle, dont il était à juste titre très fier, et que nous considérons aujourd'hui comme une véritable mutation scientifique, cette nouvelle science, on s'en est même pas aperçu à l'époque d'Ibn Khaldoun. Personne n'en a parlé d'une manière claire et précise, ni critiqué, ni discuté. Et c'est ça qui, plus ou moins, donc, pas plus ou moins, qui nous choque beaucoup, que nous considérons comme tout à fait anormal. Comment ça se fait que quelque chose d'aussi important, d'aussi nouveau et d'aussi pertinent et percutant est passé inaperçu, soit passé inaperçu à l'époque d'Ibn Khaldoun? Atunus, peut-être en raison de l'hostilité que lui voue un de ses anciens condisciples, Ibn Arafa, devenu à cette époque mufti de l'Ifriqiya et personnage influent à la cour, la publication du livre des exemples a été accueillie par un lourd silence par le milieu intellectuel. Car, quand on regarde la littérature biographique de l'époque, on ne trouve aucune mention de cette œuvre. Vous savez, à chaque époque, en particulier à l'époque d'Ibn Khaldoun, on écrivait des livres de biographie et des livres de bibliographie qui parlent un petit peu de ce qui s'écrivait et des auteurs qui publiaient des œuvres dans tous les domaines, en particulier le domaine historique et le domaine juridique. Mais quand on regarde les ouvrages écrits à cette époque, donc de ce genre, des ouvrages biographiques, il n'y a aucune mention d'Ibn Khaldoun en Tunisie. Par contre, on trouve deux auteurs marocains qui ont mentionné Ibn Khaldoun, qui ont vécu à la fin du 14e et au début du 15e siècle, Mohamed Ibn Sakkak, qui est mort en 1416, et Yaqub Ibn Moussa al-Saytani, qui vivait au milieu du 15e siècle. Mais ces deux auteurs restent trop allusifs. Ils parlent d'une manière très vague d'Ibn Khaldoun et de son œuvre, pour qu'on puisse tirer une conclusion quelconque en ce qui concerne l'opinion qu'on avait à l'époque de cette œuvre. Un seul auteur de l'Occident musulman semble avoir apprécié favorablement la Muqaddima. Il s'agit de l'Andalou Mohamed ibn Ali ibn al-Azraq, qui est mort à Jérusalem en 1496, donc il a émigré en Orient. Alors cet auteur cite abondamment l'œuvre d'Ibn Khaldoun, en particulier la Muqaddima, dans son ouvrage de sciences politiques, si l'on peut dire. À l'époque, ce n'était pas la science politique, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le genre des miroirs des princes. Le livre s'appelait « Bada'i al-Silk fi Taba'i al-Mulk ». À côté d'autres penseurs politiques grecs, persans et arabes, Ibn Khaldoun était cité abondamment. Toutefois, Ibn Azraq ne formule aucun jugement d'ensemble sur l'œuvre et ne discute aucune de ses thèses. Donc, on cite Ibn Khaldoun, mais on ne donne pas d'opinion sur son travail. Dans les siècles qui suivirent, comme on le voit dans de nombreux dictionnaires biographiques, mais surtout chez Ahmed ibn Mohammed al-Maqqari, qui a vécu au Xe siècle de l'Égypte, donc au XVIe siècle de l'ère chrétienne, et qui est l'auteur de Nafhatib min Rusn al-Andalus al-Ratib, une biographie littéraire d'Ibn Khatib, l'impression qui prévaut donc dans cet ouvrage est qu'Ibn Khaldoun compte parmi les autorités consacrées d'histoire politique et de miroir des princes. Mais la Moqaddima reste complètement occultée. En Égypte, où Ibn Khaldoun a passé la dernière tranche de sa vie, donc 24 ans, et achevé la rédaction de son œuvre, on enregistre des réactions beaucoup plus nombreuses, mais moins vives que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Plusieurs de ses disciples, notamment l'historien Al-Maqrizi et le théologien Ibn Ammar, ont laissé des notices élogieuses sur la Muqaddima, dont ils reconnaissaient la nouveauté et le caractère exceptionnel. Mais ils ne sont pas allés plus loin, ils ne se sont pas servis des conclusions et des théories sociales et politiques d'Ibn Khaldoun. Et par ailleurs, la Muqaddima a rencontré des réactions plutôt hostiles chez un certain nombre de traditionnistes et d'historiens comme Al-Haythami et Ibn Hajar. Cependant, en tant qu'historien, Ibn Khaldoun figure quand même en bonne place dans les grands dictionnaires biographiques contemporains, donc écrits en Égypte pendant son époque, donc des biographiques des auteurs contemporains, ou bien des siècles suivants jusqu'au XVIIIe siècle. En conclusion, on peut donc dire que, dans l'ensemble, l'apport proprement scientifique d'Ibn Khaldoun dans le domaine de l'histoire et des sciences sociales, ce que nous appelons aujourd'hui les sciences sociales, n'a pas été pleinement reconnu dans le monde musulman jusqu'à la fin du XIXe siècle. Si les théories sociales et politiques de la Muqaddima semblent avoir été hautement appréciées par de nombreux historiens ottomans, notamment Katip Çelebi et Mustafa Naïma, qui ont vécu l'un au XVIIe, l'autre au début du XVIIIe, jusqu'au début du XVIIIe, ces auteurs n'ont pas su s'en inspirer pour analyser leur propre société, qui était très différente de celle décrite par Ibn Khaldoun. Maintenant donc, on va regarder ce qui se passe à l'époque moderne. La nouvelle science d'Ibn Khaldoun, relative au fonctionnement de la société, au développement de la civilisation, n'a été donc ni intégrée ni prolongée dans le savoir et la culture du monde musulman. À l'antipode de cette situation inhabituelle, sa réception dans le milieu des historiens, des sociologues et plus particulièrement des anthropologues modernes, depuis les débuts du XIXe siècle, a été extrêmement favorable et même élogieuse. Non seulement la Muqaddima est appréciée à sa juste valeur, mais les théories, les paradigmes et les concepts qui y sont déployés sont adoptés pratiquement tels quels. Ils sont mis sur le même plan épistémologique ou méthodologique et exploités au même niveau par la majorité des chercheurs modernes que les idées ou les théories des historiens, sociologues et anthropologues modernes et contemporains. C'est un véritable paradoxe parce que dont on ne trouve aucun exemple ni dans la culture musulmane ni dans la culture des autres sociétés. Ce paradoxe peut s'expliquer simplement par le fait que la nouvelle science d'Ibn Khaldoun n'était pas adaptée à son temps. Le paradoxe qui fait que Ibn Khaldoun n'a pas été compris ni utilisé dans son temps. Ce paradoxe s'explique par le fait que la science nouvelle d'Ibn Khaldoun n'a pas été adaptée à son temps. Je vais dire pourquoi. Elle n'était pas rejetée. Elle n'était pas combattue et ne constituait pas un enjeu important pour la société où elle était née. Elle ne constituait pas un enjeu. Pourquoi elle ne constituait pas un enjeu? Parce que, à l'époque, les sciences sociales, ce qu'on peut appeler les sciences sociales, c'est les explications des mécanismes à la fois politiques, économiques, culturels, qui fonctionnent dans une société, dans la société, et qu'on peut déceler dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne ou ancienne. Ces mécanismes-là n'intéressaient pas à l'époque les gens. En fait, pour gouverner, pour imposer leur point de vue, pour avoir une certaine domination sur la société, il y avait d'autres moyens, en particulier les moyens religieux. La religion jouait en quelque sorte le rôle qu'ont joué par la suite les sciences humaines et sociales. Et donc, à l'époque d'Ibn Khaldoun, puisque cette science qu'a apporté Ibn Khaldoun travaillait sur des éléments, sur des réalités qui paraissaient tout à fait normales et habituelles par les gens et dont les gouvernants n'avaient aucun besoin, elle est passée inaperçue. Et il n'a pas donc soulevé ni discussion, ni critique, ni quoi que ce soit. Maintenant, souvent on a présenté Ibn Khaldoun à l'époque moderne comme un homme politique habile et un auteur génial hors de son temps, considéré, donc 100 ans, qui est considéré comme une époque de décadence. Si l'habileté d'Ibn Khaldoun et son sens politique ne semblent pas pouvoir être mis en doute, il faut rectifier l'image du génial intrigant, formule bien frappée qui a été utilisée par Jacques Berck pour qualifier la personnalité d'Ibn Khaldoun. Cette formule est en réalité complètement à côté de la plaque, je dirais, pour utiliser une langue familière. En fait, quand on examine attentivement le cours de la carrière d'Ibn Khaldoun, on découvre que sur une période de 30 ans de vie active au Maghreb et en Andalous, donc de l'âge de 20 ans à celui de 50 ans, Ibn Khaldoun ne participait au pouvoir que durant à peine 5 ans. Donc sur 30 ans, 5 ans au pouvoir. Et que sa carrière, par ailleurs, quand il est allé en Égypte, sa carrière comme grand cadi au Caire a duré moins de 5 ans. Et il n'a occupé des postes officiels d'enseignement dans la même ville que durant moins de 3 ans. Donc, quand on parle d'intrigue à son sujet, quand on parle de génial intrigant et tout ça, ça n'a aucun sens. Les gens, en fait, n'ont pas lu véritablement même l'autobiographie d'Ibn Khaldoun, dans laquelle on voit très bien qu'en réalité, c'était un homme de très grande probité qui voulait servir effectivement les princes, mais qui n'avait aucune tendance à l'intrigue ni quoi que ce soit de ce genre. Le seul épisode où il a joué un rôle important dans l'intronisation d'un nouveau roi, en fait, c'était un figurant de second ordre. Il n'a pas joué le premier rôle, c'est d'autres qui ont joué le premier rôle. Ça, on le voit parfaitement quand on lit son autobiographie. Et donc, les gens qui ont parlé de lui de cette façon, c'est vraiment de l'imagination. Et je ne sais pas d'où vient l'idée que c'était un intrigant. Il n'était en aucun cas un intrigant. C'est de la pure imagination. Donc, plutôt qu'un homme habile aux intrigues, il faudrait parler d'Ibn Khaldoun comme d'un exilé, l'exilé qu'il a été aussi bien au Maghreb qu'en Égypte, un homme qui a su gagner la confiance des princes, mais qui a été victime de jalousie et de malveillance dans les cours du Maghreb et dans l'Andalous, avant qu'il prenne la décision définitive de se consacrer à la science et à l'enseignement. Et puis, un homme qui, quand il est arrivé au Caire, a fait l'objet d'une véritable cabale en raison de son combat contre la corruption dans le milieu de la judicature et en tant que grand juge malikite. En réalité, comme nous l'avons souligné, après avoir été partagé jusqu'à l'âge d'environ 40 ans entre l'ambition politique et l'ambition scientifique, c'est son côté d'homme de science qui l'a emporté. Pour ce qui est de son génie, il est évidemment indéniable quand on regarde à la fois le travail qu'il a fait et la profondeur et l'originalité de sa réflexion. Mais il convient de nuancer ce propos au moins sur deux points. Loin d'être hors de son temps, Ibn Khaldoun en a été le reflet très fidèle, étant donné les types de problèmes religieux ou scientifiques qu'il a soulevés et les solutions modérées qu'il leur a apportées. D'autre part, il faut bien se rendre compte que sa théorie historique et sociale, novatrice, comme on l'a dit, ne pouvait pas avoir à son époque, dominée par les sciences religieuses et l'histoire narrative, l'impact qu'elle allait avoir dans notre société moderne où les sciences sociales jouent un rôle majeur. En relation avec ces derniers points, il faut nuancer le jugement selon lequel Ibn Khaldoun a été le précurseur des sciences sociales. Ça, c'est un point intéressant parce que je le répète très souvent. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait fondé. Pourquoi ? Parce que Ibn Khaldoun a effectivement inventé une nouvelle science. Cette nouvelle science, on peut l'appeler une science. Elle touche en réalité à tous les problèmes des sciences humaines et sociales. Mais ça s'est passé dans une autre société, à une autre époque. Et Ibn Khaldoun n'a eu aucune influence sur le développement des sciences sociales modernes. Aucune. Les sciences sociales se sont développées en Europe à partir du XVe siècle. Ils ont connu un saut extrêmement important à partir du début du XIXe siècle. Et à l'époque, Ibn Khaldoun n'était pas connu et n'avait exercé aucune influence sur les scientifiques dans ce domaine-là. Mais il y a eu bien sûr un certain nombre de scientifiques européens qui ont utilisé, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ont utilisé son œuvre, en particulier l'histoire des Berbères, des Arabes et des Berbères du Maghreb, qui ont parfois utilisé également la Muqaddima, mais sans avoir une influence décisive sur leurs travaux. Il y a un certain nombre de sociologues connus qui ont travaillé sur la Muqaddima, mais ils étaient eux-mêmes déjà plongés dans une évolution complètement différente et tout à fait particulière et qui a été entamée en Europe 5 siècles auparavant et qui s'est développée à partir du 19e. Donc de ce côté-là, c'est également une fausse idée qu'on a sur Ibn Khaldoun. Mais Par contre, ce qu'il faut retenir d'une manière ferme, c'est que Ibn Khaldoun a été effectivement l'inventeur, le premier à avoir fait de la société et de l'histoire un objet scientifique véritablement. Ça, il l'a fait, ça c'est vrai. Mais ça s'est passé dans une autre société. Ça s'est pas passé, on ne peut pas le relier à la société moderne. Mais n'empêche qu'il a un mérite extraordinaire d'avoir fait à son époque quelque chose qui finalement n'a réapparu dans l'histoire qu'à peu près 4 siècles plus tard. Alors, il y a d'autres chercheurs ou penseurs comme Yves Lacoste qui avancent l'idée que Ibn Khaldoun a eu une contribution fondamentale à l'histoire du sous-développement. Je dirais que c'est complètement idiot, parce que le sous-développement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'époque d'Ibn Khaldoun. Et les analyses qu'il a faites de la société, de l'économie de l'époque, n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et même, d'ailleurs, le concept de sous-développement, c'est un concept qui est malheureusement très contestable, et en particulier à cause justement de la charge idéologique qu'il y a là-dedans. Bon, malheureusement, on ne peut pas en discuter aujourd'hui, mais c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir sérieusement. Les concepts, il ne faut pas les accepter comme ils sont. Ils sont toujours au service de quelque chose et pour l'intérêt de quelque chose. Et l'intérêt qui est servi par le concept de développement, de sous-développement et même celui de développement, c'est l'intérêt plutôt des plus puissants aujourd'hui, c'est-à-dire des Occidentaux. Alors, quel est le mérite de la science nouvelle d'Ibn Khaldoun? Bon, comme je viens de le dire, c'est la première tentative qui a été faite dans l'histoire de la culture humaine de prendre la société et l'histoire comme objet. La société, l'histoire, la civilisation comme objet. Et ça, c'est tout à fait intéressant et très, très important. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on essaie justement de comprendre, parce que pendant très longtemps, on a considéré, par exemple, l'histoire comme quelque chose qui se développe de manière linéaire. Il y a, à un moment donné, on a écrit plus ou moins bien l'histoire, puis après l'histoire, on a écrit un peu mieux. Par exemple, à l'époque de Thucydide, on a écrit l'histoire un peu mieux, et puis après, il y a eu un certain nombre d'autres historiens romains, et puis après, il y a eu une crise de l'histoire à partir du 17e, 18e siècle, puis il y a eu le 19e siècle, etc. Donc, on imagine une sorte de progression linéaire dans l'écriture de l'histoire. Tout ça, ça n'a aucun sens. C'est faux. Parce que chaque époque écrit l'histoire dont elle a besoin. Écrit l'histoire de la façon dont elle a besoin de l'écrire. Et on ne peut ni comparer, ni juger de la qualité de ces manières d'écrire l'histoire les unes par rapport aux autres. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire, la façon d'écrire l'histoire d'aujourd'hui, elle intéresse l'époque moderne et elle est au service de système moderne tel qu'il est aujourd'hui. L'histoire telle qu'elle s'écrivait à d'autres époques racontait l'expérience humaine de cette époque et le racontait avec ses moyens propres et avec sa méthode, etc. Et on n'a pas du tout à comparer. On n'a pas à dire la manière d'écrire l'histoire d'aujourd'hui est meilleure ou moins bonne que celle qui existait à l'époque des Arabes ou à notre époque. Tout ça, c'est complètement de l'imagination et c'est de l'imagination idéologique pour tout un ensemble d'objectifs dont je n'ai pas à parler maintenant. Alors, donc, la nouvelle science d'Ibn Khaldoun, ce qui est important, c'est qu'elle permet de poser la question des relations entre les traditions scientifiques modernes et les traditions scientifiques prémodernes non occidentales. Et, comme je viens de le dire, de relativiser les prétentions des traditions scientifiques modernes à faire des sciences de l'homme une création du 19e siècle et du 20e siècle européen. En fait, encore une fois, à toute époque, les hommes avaient cette capacité de parler d'eux-mêmes, cette capacité de raconter leur propre vie, de poser les problèmes qu'ils étaient en train de vivre, et c'était leur façon de faire. Et on n'a pas du tout à comparer ce qu'il y a entre ces manières-là d'une époque à l'autre et d'une civilisation à l'autre. Encore une fois, comme par exemple en mathématiques ou en astronomie ou en physique ou en médecine, il y a des problèmes qui ont été posés à un moment donné, pour lesquels on a trouvé des solutions. Et sur ces problèmes-là et sur ces solutions, on peut, à un moment donné, constater une manière nouvelle de poser les problèmes. Et si l'on peut dire, et même d'ailleurs j'hésite à le dire, on peut constater un certain progrès. Mais en réalité, l'idée même de progrès est fausse dans son essence. Parce que le progrès suppose une possibilité d'évolution linéaire pour tous les hommes, dans toutes les régions du monde et à toutes les époques. Et cette idée-là est complètement fausse. Parce que les hommes ont vécu des choses différentes d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Et quand on parle de progrès de manière générale, c'est une idée complètement, encore une fois, qui relève de préjugés idéologiques. Et surtout, quand on dit que le progrès se trouve là et pas ailleurs, se trouve en Europe et pas ailleurs. Et ça, c'est l'idée générale que l'on propage, qu'on a propagée depuis le 19e siècle, qui continue à propager jusqu'à aujourd'hui. On dit qu'il y avait des sociétés qui sont restées stagnantes, qui ne sont pas développées, qui sont restées archaïques, qui n'ont pas fait de progrès. Ces choses-là n'ont aucun sens parce que chaque société, à chaque époque, essaie de trouver les meilleurs moyens de s'adapter à son environnement culturel, écologique, géographique et humain. Et l'essentiel, c'est de voir comment se fait cette adaptation. Et c'est ça qui est important. Et si nous voulons comprendre les sociétés humaines, il ne faut pas avoir des présupposés généraux, comme l'histoire de progrès, la continuité, l'évolution linéaire, des choses de ce genre. Il faut simplement voir comment les sociétés ont réellement vécu, quelles étaient leurs expériences et comment elles ont résolu les grands problèmes qui se posent à l'humanité. C'est ça qui est important. Voilà, c'est un petit peu mon dernier mot, non pas sur Ibn Khaldoun, mais sur la réflexion sur l'histoire, sur la sociologie, sur l'anthropologie et sur l'étude des civilisations. Je vous remercie d'avoir suivi, si vous l'avez fait, ces 10 séances de consacrées à Ibn Khaldoun. Et j'espère que vous en avez tiré profit. Quant à moi, j'ai été très heureux de parcourir avec vous tout ce long chemin. Merci beaucoup.